Chers amis, nous avons célébré il y a quelques semaines la magnifique liturgie de Pâques où nous avons renouvelé les promesses de notre baptême et où, en communion avec les baptisés de Pâques, nous avons été renouvelés nous-mêmes dans la grâce de la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance que nous a obtenue le Christ par sa mort et sa résurrection. Il est bon de renouveler chaque année notre gratitude envers le Seigneur, qui a fait de nous des créatures nouvelles. Cependant, n'oublions pas que la grâce de Pâques se déploie entièrement à la Pentecôte. Et oui, il ne faut pas s'arrêter à Pâques. Le couronnement de Pâques, c'est Pentecôte. C'est le don de l'Esprit-Saint, sans lequel tous les germes de vie nouvelles que le Seigneur a mis en nous, au baptême, ne pourraient se développer. Car le Seigneur nous a créés pour que nous soyons transformés, pour que nous devenions des êtres non plus seulement charnels et psychiques, mais spirituels, c'est-à-dire vivants d'un esprit nouveau, de l'esprit du Christ, de l'Esprit Saint. Saint Paul ne craint pas de nous apostropher à cet égard. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Nous ne prenons pas assez la mesure de ce changement ontologique. Le Seigneur, en effet, par le don du Saint-Esprit, ne nous a pas donné un vernis de respectabilité, mais il nous a profondément transformés intérieurement. Il a surnaturalisé notre âme par le don des vertus théologales. Par la foi, il nous rend aptes à le connaître. Par l'espérance, il nous oriente vers les biens éternels promis. Et par la charité, il nous fait entrer dans la possibilité de vivre de l'amour même de Dieu et d'honorer dans la joie le commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». De plus, en nous donnant son Esprit Saint, le Seigneur nous donne ses dons qui sont des dispositions permanentes rendant l'homme docile aux impulsions de l'Esprit Saint. Ces dons sont au nombre de 7 et on les trouve au chapitre 11 d'Isaïe, verset 2, quand celui-ci décrit le Messie à venir, sur qui reposera précisément l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, et esprit de crainte de Dieu. Ces dons qui étaient le privilège du Fils deviennent de fait le privilège de tous ceux qui sont renés, nés à nouveau, comme créatures nouvelles dans le Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, évoque cet ennoblissement de notre être dans le Christ, ennoblissement qui nous fait participer à sa propre vie dans l'Esprit. Voici ce qu'il leur écrit. « Tous ceux qu'animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. » Nous devenons ainsi participants de la nature divine, selon les mots de Saint Pierre dans sa deuxième lettre. Les dons de l'Esprit-Saint viennent compléter et mener à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude et amour aux inspirations divines. Et sans doute que ceux parmi vous qui n'ont pas toujours été chrétiens et qui le sont devenus se sont bien rendus compte de cette transformation profonde. Il y a un avant et un après. Pour ma part, j'ai pu le constater. N'ayant pas toujours été chrétienne, mes pensées étaient des pensées complètement mondaines. Et puis quand j'ai reçu le don de la foi, tout ce que je pensais avant m'est apparu comme incongru, faux et même horrible. Et je me disais, mais comment ai-je pu penser cela? Dans quel aveuglement j'étais? Et donc c'est comme des écailles qui tombent des yeux. Et nous nous mettons à voir le monde autrement. Et ce qui semblait étrange ou ridicule avant devient soudain une évidence, non pas apprise dans les livres, mais reçue dans le cœur par une lumière venue d'en haut. Oui, Dieu existe et il nous aime d'un amour inconditionnel. Oui, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés et nous illuminer de sa grâce. Oui, la Vierge Marie, la toute pure, est sa mère et notre mère et elle prend soin de nous. Oui, les anges existent et ont reçu mandat de nous protéger, de nous conduire. Donc voyez, même notre intelligence est renouvelée. Elle reçoit une lumière qu'elle n'avait pas avant. Tout comme notre cœur est rendu capable d'aimer bien davantage qu'auparavant, même si cela reste toujours un combat tant que nous sommes sur cette terre avec nos fragilités, les tentations multiples et les embûches de l'ennemi. l'homme qui se laisse ainsi transformer par la grâce du Saint-Esprit, ne reste pas stérile. Il produit de bons fruits, non pas lui, mais la grâce de Dieu en lui. Et ce sont donc les fruits de l'Esprit-Saint. Et ces fruits sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la gloire éternelle. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul énumère ces fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Un tel homme, vivifié par la grâce du Saint-Esprit, ayant laissé l'Esprit-Saint le surnaturaliser, témoigne donc par sa vie que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui, comme le disait saint Paul. Didyme d'Alexandrie, un théologien du IVe siècle, évoquait ce renouvellement de notre être que nous obtient le Saint-Esprit. Voici ce qu'il écrivait. « Le Saint-Esprit étant Dieu, nous renouvelle dans le baptême, en union avec le Père et le Fils. Il nous ramène d'un état de laideur à notre beauté primitive. Il nous comble tellement de sa grâce que nous n'avons plus de place pour accueillir tout ce qui serait indigne de notre désir. Il nous libère du péché et de la mort. Et à partir de l'existence terrestre, c'est-à-dire de la poussière et de la cendre, il fait de nous des hommes spirituels, participants de la gloire divine, fils et héritiers de Dieu le Père. Il nous rend conformes à l'image de son Fils, dont il nous fait les co-héritiers et les frères, destinés à être glorifiés et à régner avec lui. En échange de la terre, il nous donne le ciel et nous gratifie libéralement du paradis, nous rendant plus honorables que les anges. » Cela peut nous sembler étonnant. Comment pourrions-nous être plus honorables que les anges? Eh bien parce que, selon ce que disait saint Léon le Grand, commentant l'épisode de l'ascension du Seigneur au ciel, la nature humaine recevait, lors de l'ascension, une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes. Elle allait dépasser les cœurs des anges et monter plus haut que les archanges. Les êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré d'élévation, car elle allait être admise, cette nature humaine, à trôner auprès du Père éternel, en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. Comprenons bien, le Verbe de Dieu s'est uni intimement à la nature humaine, et donc, quand il remonte vers son Père, il ne remonte pas comme un pur esprit. Il remonte avec cette nature humaine qui est nôtre et qu'il a faite sienne. Et donc, notre nature humaine se trouve de fait élevée dans les cieux plus haut que les anges, recevant une dignité supérieure à celle des créatures célestes, comme nous dit saint Léon le Grand. Nous sommes dans le Christ, comme lui est en nous. Et donc, notre humanité est déjà au ciel, en lui. Le Christ est allé nous préparer une place, et cette place, elle est en lui, à la droite du Père, et donc bien au-dessus des anges. Voyez quelle dignité nous a valu le Christ. C'est qu'en effet, nous ne sommes pas nés seulement de la chair, mais de l'esprit. Car il y a pour l'homme une double conception, la conception charnelle. Nous sommes nés de l'union de nos parents, mais aussi une conception spirituelle, où nous renaissons de l'Esprit-Saint dans le baptême. Saint Jean a évoqué ce mystère dans son prologue. « À tous ceux qui l'ont reçu, le Verbe qui s'est fait chair a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Donc, tous ceux qui ont eu foi dans le Christ, nous dit saint Jean, eh bien, ils ont été engendrés de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Ils sont nés de Dieu, ils sont donc enfants de Dieu, devenus membres de la race de Dieu, nous dit le théologien Didyme d'Alexandrie. Que cet engendrement spirituel, cette nouvelle naissance, vienne du Saint-Esprit, le Christ lui-même nous l'a dit dans son dialogue avec Nicodème. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas si je t'ai dit, il vous faut naître à nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Dans la piscine baptismale, ce n'est pas seulement notre âme qui est purifiée et renouvelée dans la grâce du Saint-Esprit, mais c'est notre corps aussi qui est sanctifié, car lui aussi a besoin d'être purifié par l'eau, comme le vase d'un potier, et ensuite d'être rendu solide par le feu de Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. Donc le corps lui-même est marqué du sceau du Saint-Esprit. Il devient le temple, le sanctuaire de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Il acquiert donc une dignité extraordinaire, d'où l'importance de ne pas le profaner par le péché, par l'impureté. Ayons bien conscience qu'à la fin des temps, nous serons en présence du Seigneur au ciel, non pas seulement comme des âmes, mais comme des personnes ressuscitées, avec notre corps et notre âme sanctifiées. Saint Paul nous a annoncé cela dans sa lettre aux Philippiens. « Pour nous, dit-il, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. » Notre corps, mes amis, aura les propriétés d'un corps glorieux, à l'image et ressemblance du corps glorieux du Seigneur après sa résurrection. Dieu soit béni. Nous n'aurons plus d'arthrose au ciel. Nous ne serons plus en surpoids. La maladie ne nous rongera plus. Nous serons jeunes, beaux et en bonne santé, avec notre corps. Et c'est bien normal quelque part. Notre corps a peiné, il a souffert sur la terre. Eh bien, il participera lui aussi de la gloire au ciel. Il sera pris dans le rayonnement de la béatitude de l'âme à laquelle il est intimement uni, puisque nous sommes un, corps et âme. Cette espérance qui est la nôtre pour le ciel peut déjà se réaliser en partie sur la terre, à condition de nous laisser purifier par le feu du Saint-Esprit, purifier de tout égoïsme, du péché, libérer aussi de tout lien mondain qui nous entrave. En fait, il me semble que nous sommes très pauvres aujourd'hui. Nous avons perdu de vue la richesse du Saint-Esprit et tout ce qu'il peut opérer en nous. Quand nous lisons les Actes des apôtres, nous voyons des hommes, les apôtres, les disciples, remplis du Saint-Esprit, de tous ses dons et de tous ses charismes. Mais cela n'était pas réservé à l'âge apostolique, puisque nous voyons encore dans le traité de Saint Basile sur le Saint-Esprit les actions merveilleuses de ce Saint-Esprit, justement. Or, Saint Basile a vécu au IVe siècle, c'est-à-dire longtemps après les apôtres. Et voici ce qu'il dit. « Par le Saint-Esprit, les cœurs s'élèvent. Les faibles sont conduits par la main. Ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, l'Esprit-Saint, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui les rend spirituels par leur communion avec lui. De là viennent la prévision de l'avenir, l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la distribution des dons spirituels, la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, la joie sans fin, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. » Saint Basile parlait ici de ce qu'il connaissait, de ce qu'il expérimentait comme évêque de Césarée dans son église de Cappadoce. À cette époque, les disciples du Christ prenaient au sérieux cette transformation profonde opérée par le Saint-Esprit en chacun de nous. Et Saint Basile en a vécu pleinement et il prêchait pour que tous puissent en vivre pleinement. Il ne considérait pas que tous ses dons et ses charismes étaient réservés à une élite. Il les voyait comme faisant partie de la vie normale du chrétien. Alors bien sûr, tous ne reçoivent pas tous les charismes, mais les charismes sont distribués dans l'Église pour le bien de tout le peuple de Dieu. Et ainsi, l'un peut recevoir la prévision de l'avenir, un autre l'intelligence des mystères, un autre la compréhension des choses cachées par le don de la sagesse, et puis la citoyenneté céleste, la danse avec les anges, etc. Saint Cyrille de Jérusalem, un autre père de l'Église du IVe siècle aussi, dans une homélie sur le Saint-Esprit, évoque aussi la puissance et la fécondité de l'Esprit dans ceux qui l'accueillent. Il nous dit que l'Esprit-Saint est comme de l'eau. Il est cette source jaillissante pour la vie éternelle dont nous parlait Jésus lui-même. Or, l'eau opère de façon multiforme. Elle arrose selon ce qu'elle est, mais elle est différente dans le palmier, dans la vigne, dans la fleur, et se fait ainsi toute à tous. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. Eh bien, il en est de même pour le Saint-Esprit. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue cependant ses dons à chacun selon sa volonté, produisant des fruits différents en chacun. Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse, nous dit saint Cyrille. Il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là. Il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons, à un autre encore celui d'interpréter les divines écritures. Il fortifie la chasteté de l'un. Il enseigne à un autre l'art de l'aumône. Il enseigne à celui-ci le jeûne et l'ascèse. À un autre, il enseigne à mépriser les intérêts du corps. Il prépare encore un autre au martyr. Voyez comme tous les dons et charismes de l'Esprit-Saint étaient accueillis et honorés dans ces premiers siècles de l'Église. Les évêques, bergers du troupeau, avaient bien conscience des bienfaits de l'Esprit-Saint dans le service de la sainteté des brebis du Seigneur. Et ils s'en réjouissaient et ils encourageaient cette sainteté de grâce. Or, si le Saint-Esprit désirait être fécond à cette époque, combien il désire l'être encore aujourd'hui, alors que notre monde est en train de retourner au paganisme. Il veut toujours, à travers nous, rendre témoignage au Christ, pour que tous le connaissent et soient sauvés. Et donc, aujourd'hui encore, il n'y a pas de doute là-dessus. Il veut donner des dons à profusion et des charismes à l'Église, pour qu'elle soit vraiment comme un phare dans la nuit. D'autre part, quand saint Basile affirme que l'Esprit-Saint nous fait devenir Dieu, il n'est pas fou, car de fait c'est bien là la vocation ultime de l'homme, devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, comme ne cessaient de le dire les premiers pères de l'Église. Mais attention, cette transformation ne saurait être le fruit d'un orgueil luciférien, selon la suggestion du serpent dans la Genèse à nos premiers parents. Vous serez comme des dieux, autrement dit sans recevoir ce don de Dieu, mais en essayant de vous en emparer par vous-même, dans la désobéissance à Dieu, dans la rébellion contre Dieu. Cette transformation où l'homme devient Dieu ne peut donc être que le fruit du don de la grâce divine reçu dans l'humilité du cœur. Ce n'est pas nous qui nous divinisons, c'est Dieu qui nous divinise, en nous faisant participer à sa vie divine. Nous sommes comme incorporés dans la divino-humanité du Christ par le Saint-Esprit et à proportion de notre humilité. Voyez, il y a bien là deux chemins opposés, même s'ils prétendent arriver au même but, à savoir devenir Dieu. Et il me semble qu'il est très important d'en avoir conscience en ces jours qui sont les derniers, comme dirait l'auteur de la lettre aux Hébreux, ou en ces jours de supercherie généralisée. Depuis le commencement, en effet, le Seigneur veut que nous nous laissions spiritualiser, sanctifiés par le Saint-Esprit, pour être rendus capables de participer à sa propre vie divine. Et Satan, lui, qui vient toujours pour singer Dieu, nous propose aussi un simulacre d'augmentation de notre être, mais non pas par une synergie avec le Saint-Esprit, mais par une synergie avec la machine, avec la technologie. Et c'est bien là que nous reconnaissons la supercherie, la falsification du projet de Dieu. C'est bien la grande tromperie qui nous est proposée en ces derniers jours. La technoscience, l'intelligence artificielle et les artefacts miniaturisés qu'on rajoute au corps ou au cerveau se proposent de remplacer le Saint-Esprit lui-même pour faire de nous des dieux omnipotents, omniscients, soi-disant. Les acteurs de la tech, dans la Silicon Valley, notamment les dirigeants des start-up travaillant sur l'IA, l'intelligence artificielle, appellent de leur vœu le transhumanisme, autrement dit la post-humanité. Selon eux, en effet, l'humanité doit être dépassée, non pas pour être plus humaine, plus sainte, plus unie à Dieu, mais pour s'affranchir des limites de l'humanité, notamment de la corporéité, mais aussi de ses limites intellectuelles. Cependant, le risque de cette entreprise prométhéenne, c'est tout simplement l'abolition de l'humanité, de ce qui fait qu'un homme est homme, précisément. En effet, en visant un dépassement de l'humanité par la technologie, on risque de se retrouver non pas avec une humanité surnaturalisée par la grâce selon le projet de Dieu, mais avec une infra-humanité, une humanité amoindrie, technicisée, machinisée, qui perd sa dignité humaine, précisément. La synergie entre l'humanité et la technique n'aboutit pas à l'augmentation de notre humanité, mais à une transformation de cette humanité en cyborg, c'est-à-dire en une forme d'androïde moitié robot, moitié humain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le démon, n'étant pas Dieu, ne possède en lui-même ni la vie ni la grâce transformatrice. Il lui faut donc trouver un autre moyen qui donne l'illusion de l'augmentation et d'une transformation apparemment positive. Et cet autre moyen ne peut être qu'un moyen matériel ou spirituel, mais démoniaque. Le démon peut en effet donner des dons, nous en avions déjà parlé dans le thème des anges et des démons. Mais ces dons, qui sont une simulation inversée des dons de l'Esprit-Saint, ne sont pas au service du bien, mais du mal. D'autre part, le démon peut pousser les hommes dans l'orgueil, dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Et il y a bien là une sorte d'orgueil et de démesure dans le projet de devenir soi-même comme un dieu par l'IA, par l'interface corps-machine et par toutes ces technologies de soi-disant augmentation de l'homme, par le transhumanisme. Alors attention, je ne suis pas en train de condamner la technique, bien évidemment. L'homme étant un être de culture, il a de tout temps utilisé des moyens techniques pour se faciliter la vie. Et cela manifeste son ingéniosité, et c'est bien. Mais une chose est d'utiliser la technique comme un moyen au service de l'homme, l'homme restant la fin, et une autre est de transformer l'homme par la technique, comme si le nec plus ultra n'était plus l'humanité, l'homme à l'image de Dieu, mais la post-humanité, c'est-à-dire la machine elle-même. Il faut bien saisir l'enjeu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le démon semble nous recréer aujourd'hui à l'image de la machine. De spirituel, il nous fait déchoir au rang d'artefact. Vous remarquez bien à quel point aujourd'hui l'homme va jusqu'à déléguer sa pensée à des algorithmes. C'est comme si l'homme acceptait sa propre déchéance, son obsolescence. Et nous voyons bien cette pente. Aujourd'hui, les hommes s'émerveillent plus de l'intelligence artificielle et des prodiges qu'elle peut accomplir que de la sainteté d'un homme. Autrement dit, ils idolâtrent des algorithmes et oublient la dignité extraordinaire de la filiation divine de l'homme. Et cela ne nous étonne pas, dans la mesure où l'athéisme nous a fait entrer dans une société matérialiste et technicisée, qui vise à la performance et non plus à l'éthique ou à la vie de l'esprit. Il s'agit désormais d'être efficace comme un ordinateur et non pas saint comme un fils de Dieu. C'est un basculement dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences délétères. En fait, l'IA, l'intelligence artificielle, vient faire honte à l'homme de ce qu'il est, dans la mesure où elle peut le dépasser sur tout un tas de performances intellectuelles. Non pas que l'IA soit intelligente, mais par une infinité de calculs algorithmiques, elle peut donner l'illusion non seulement d'un savoir impressionnant, et cela n'est pas compliqué puisqu'elle a accès à tous les contenus sur Internet, mais elle peut aussi donner l'illusion d'une intelligence, d'un raisonnement pensé. Or, ceci est normalement le propre de l'homme. Voyez à quel point cela soulève un questionnement sur l'homme. Bien sûr que si l'homme n'est qu'un corps et une intelligence, il peut lui sembler être dépassé par la machine, par l'IA et perdre son aura, sa dignité propre. Mais l'homme n'est pas une intelligence calculatrice sur pattes. Il est à l'image de Dieu, à l'image du Verbe incarné, corps, âme, esprit. Le corps n'est pas un truc limité dont il faudrait se débarrasser, comme le pensent certains fans de l'IA et des interfaces homme-ordinateur. Dieu lui-même a pris chair et il a élevé le corps à une grande dignité. Le corps est désormais le vecteur de l'amour. L'amour se laisse toucher et l'amour a besoin de toucher pour se dire, pour faire le bien, pour donner. Quand Mère Teresa allait chercher les mourants dans les caniveaux de Calcutta, qu'elle enlevait les vers de leurs plaies et qu'elle les soignait, c'était bien avec son corps qu'elle exprimait l'amour du Christ pour ses pauvres. Et cela, l'IA ne le fera jamais, parce qu'il n'y a pas d'amour dans l'IA, ni de corps pour se donner. De même, les facultés de l'âme que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté concourent ensemble dans le sujet libre pour lui permettre de donner sens à sa vie. L'homme ne se contente pas de savoir. Il pense et agit en fonction du bien, de ce que lui dicte sa conscience éclairée par la lumière de Dieu. Et par son esprit, la fine pointe de l'âme, l'homme peut être en relation avec plus grand que lui, avec le Dieu transcendant et éternel. Il peut être rendu participant de la vie même de Dieu, à travers sa fragilité. Donc sa dignité est infiniment plus grande que l'IA. Mais il doit se rappeler qui il est vraiment, pour ne pas succomber à une forme d'idolâtrie de la machine, simple œuvre de ses mains, ni à une forme de honte, de dépréciation de soi, d'abdication fataliste de ce qui fait sa grandeur. Gardons dans notre cœur la prière du psalmiste, cette prière qui témoigne de notre incommensurable dignité. Oui, c'est toi, Seigneur, qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres.